Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Nous nous retrouvons pour la rétrospective de l'actualité de la semaine du 10 au 16 juin 2024. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
À la une, il y a d'abord les habitants de la commune Kawalole en province Kayanza qui sont dans l'angoisse et la désolation. C'est suite à l'assassinat samedi de la semaine dernière d'un homme de 28 ans du nom de Joseph Habiyarenye de la colline Mugoyi de cette commune. Il a été tué par le commissaire communal de la police, Moïse Alakaza, surnommé Nyega Nyega. La police avait pris Joseph Habiyarenye chez lui avant qu'il ne soit tué. L'auteur du meurtre est toujours libre. Il en a même été félicité par le gouverneur de la province. La population n'en revient pas, car elle s'attendait à ce qu'il soit arrêté et traduit devant la justice. Bon fils Nyongele nous en dit plus.
D'après des informations en provenance de la commune Kabarole, tout a commencé quand très tôt le matin samedi dernier, des policiers ont mené une opération de fouille et perquisition au domicile de Joseph Habiyarenye Argan qu'il voulait confisquer au café sec que cet homme prévoyait vendre au Rwanda. Mais les policiers n'ont pas trouvé de café à son domicile. Toutefois, pour suivre les mêmes sources, ils l'ont sérieusement bâti, lui intima l'ordre de lui dire l'endroit où lui et ses complices font transiter le café avant de l'acheminer au Rwanda. Par ailleurs, deux de ses voisins venus voir ce qui se passait à son domicile ont subi le même traitement. Puis tous les trois ont été conduits au cachot du commissariat communal de police à Kabarole. Après, le commissaire communal, Moïse Arakaza, surnommé Nyega Nyega, en compagnie d'un policier, a pris Joseph Habiyarenye à bord d'une moto vers Karama, une colline frontalière entre la commune Kabarole et le Rwanda voisin. Joseph Habiyarenye a par la suite été entraîné par le commissaire dans un bois de la localité où ce dernier l'a abattu à bout portant où il est mort sur le champ. Moïse Alakaza a par après interdit à la population de récupérer le corps sans vie de la victime. Le lendemain dimanche, le gouverneur de province à Kayanza, le colonel Demichi Shahayo, accompagné du procureur en province Kayanza et du commissaire provincial de police, se sont rendus dans cette commune. Le commissaire de police en commune Kabarole, Moïse Alakaza, a fait savoir qu'il a tué Joseph Habiyarenye parce que celui-ci tentait de s'enfuir vers le Rwanda. Il a en outre déclaré qu'il est dans une mission du président de la République pour combattre avec la toute dernière énergie la fraude dans cette commune. Ce commissaire est allé jusqu'à dire à la population que partout où il est passé, il a tué beaucoup de personnes et que même en commune Kabarole, il ne va pas tolérer quiconque aura été objet de suspicion ou attrapé en flagrant délit en faisant de la fraude. Et la punition à subir ne sera autre que la mort. Le commissaire Moïse Alakaza a invité tous ceux qui ne savaient rien de sa carrière professionnelle de visiter le site YouTube pour en savoir davantage. Par conséquent, le décès de cet habitant, Joseph Habiyarenye, suivi de tous ses propos, a plongé les autres habitants de cette commune Kabarole dans une pure panique. C'est au moment où alors qu'ils s'attendaient à ce que l'auteur du meurtre soit traduit devant la justice. Au contraire, le crime a été cautionné par les autorités administratives. Les habitants disent ainsi craindre que le commissaire de police Moïse Alakaza, surnommé Nyega Nyega, ne pose encore d'autres actes meurtriers s'il n'est pas poursuivi en justice ou muté ailleurs. Quant au corps sans vie de la victime Joseph Habiyarenye, il a été enterré dans la mi-journée de ce lundi. Les défenseurs des droits humains déplorent le comportement du commissaire de police Moïse Alakaza tout au long de sa carrière policière, surtout dans les communes de Mugamba, Matana et Bururi en province Bururi, les communes de Nyanzalak et Mabanda en province Makamba, la commune Kabezi en province Bujumbura et ailleurs. Ces défenseurs des droits humains s'inquiètent de l'impunité qui jouissent sur le commissaire de police qui commet d'une façon répétitive de meurtre sans être inquiété.
Le comportement de cet officier de la police irrite les défenseurs des droits de l'homme. C'est le cas de la Ligiteka qui demande à la ministre de la Justice, Dominique Nyanimbona, de sortir de son silence pour traduire en justice le colonel de police Moïse Alakaza, qui se targue d'être intouchable après avoir assassiné de nombreuses personnes. Suivez à ce propos mon cher Nicolas Guizet, président de la Ligue ITEKA.
À la Ligue ITEKA, nous sommes indignés par l'exécution extrajudiciaire de Joseph, un habitant de la commune Kabarole, exécuté par le commissaire Arakaza Moïse, alias Neganyega. Un commissaire qui a excellé et qui continue d'exceller dans des assassinats, arrivements, tortures et arrestations arbitraires. La réalité est que nous saisissons cette occasion pour encourager la population de Kabarole en particulier et la population burundaise en général qui continue à résister et à demander que la loi soit appliquée pour toute personne qui viole les droits humains. Nous avons entendu les démarches prises par le gouverneur et le procureur de la République dans la province de Kayanza pour l'enterrement de son victime, mais envers la population à résister. C'est un acte à encourager. Il faut que le gouvernement en place joue son rôle, surtout la ministre de la Justice, de se désolidariser de ces malfaiteurs et appliquer la loi en faveur de la population.
Et puis la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, dit ne pas comprendre les motifs de sa dégradation du statut A au statut B par l'agence de l'ONU chargée d'évaluer de telles commissions nationales. Déclaration faite lundi dans un point de presse, animé par Sixte Vigny Nimuraba, président de cette commission. Selon lui, le rapport fourni par la CNIDH aurait été mal analysé.
Dans notre réponse, nous avons donné la liste exemplaire d'une vingtaine ou bien centaine de cas. On donnait le nom du requérant avec son numéro de téléphone. Ça, c'est la première colonne qui dit qui a saisi la CNIDH. Deuxièmement, la victime pour laquelle le requérant avait plaidé pour. Et puis, la troisième colonne, ça concernait les détails sur le cas. Quatrième colonne, c'est le résultat obtenu. Les 10 pages, ça concerne la majorité des cas qui sont appuyés aux partis politiques. Donc là, on ne peut pas mentir. On est en train de faire ce qu'on devait faire. Seulement, c'est peut-être la lecture qui a été difficile à ceux qui nous ont examinés. Pour le cas de journalistes, on doit souligner qu'il y a pas mal de journalistes qui ont été soit libérés ou qui ont vu leurs droits octroyés après l'intervention de la CNIDH. Pour dire que les évaluateurs, s'ils sont objectifs, ils devaient voir ces informations, venir chez vous dans les radios ou dans les journaux pour voir est-ce que la CNIDH vraiment a fourni un effort pour contribuer à ce que ces journalistes soient libérés. Voilà, il y a la question qui concernait, par exemple, la société civile. Là aussi, on a montré exactement comment on a travaillé avec la société civile. Et pour bien le démontrer, on a même ajouté des captures d'écran sur les échanges qu'il y a. Donc, il y a des informations que vous devez soutenir avec des preuves palpables en rapport avec les réunions qui ont été tenues, avec les rencontres qui ont été faites, avec les décisions qui ont été prises, mais surtout avec les cas référés et pour lesquels on s'est donné un délai de 72 heures pour donner une réponse.
Toujours dans ce domaine, pour la première fois depuis son adhésion à l'ONU, le Burundi a récemment été élu à la présidence de la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies chargée des droits de l'homme. Pour les autorités burundaises, cette élection montre que la conscience de la communauté internationale a été recouvrée. Mais les acteurs de la société civile burundaise indépendante ne sont pas de cet avis. Pour Maître Lambert Nigalula, par exemple, le Burundi n'a pas été élu sur le mérite, c'est plutôt juste son tour d'occuper cette position. Selon lui, le Burundi ne méritait même pas d'être à la tête d'une commission chargée de la promotion des droits de l'homme. Maître Lambert Nigalula estime que cela devrait être pris comme une opportunité pour que le pouvoir burundais abandonne les multiples violations des droits humains. Suivez-le.
D'abord, il n'y a rien d'étonnant. C'est pas parce que le Burundi a été choisi pour avoir été un modèle dans le respect des droits de l'homme, dans la bonne gouvernance ou la lutte contre la corruption. Loin de là, c'est parce que l'ONU est une organisation dont les membres sont des pays et de différents continents, dont le Burundi. Il y a donc tour de rôle dans ces pays pour occuper un poste quelconque. Aujourd'hui, c'était le tour du Burundi. Malheureusement, le Burundi ne mérite pas cette place. Le Burundi ne mérite pas d'être à la tête d'une commission à charge de la promotion des droits de l'homme, de la lutte contre la corruption ou la bonne gouvernance. C'est vraiment un mauvais élève qui ne méritait pas d'être à ce poste. Mais comme la rotation l'exige, et suite aussi au contexte géopolitique, il n'y avait pas moyen d'exclure le Burundi. C'est vraiment une rotation ordinaire et normale. Mais ce que nous pouvons dire, c'est vraiment une opportunité pour le Burundi. Donc, je conseillerais aux dirigeants du pays de saisir la barre au bon. Parce que, comme vous le savez sans aucun doute, l'année dernière, au mois de septembre, les mêmes Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme avaient, lors du dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur le Burundi, il avait mentionné, noir sur blanc, que les violations des droits de l'homme au Burundi continuent, qu'il n'y a jamais eu d'amélioration. Aujourd'hui, le Burundi vient d'être élu à la tête de la troisième commission en charge des droits de l'homme. Il y a quand même un dysfonctionnement. Mais comme c'est la rotation normale, nous pouvons comprendre, et aussi suite au contexte géopolitique. Mais quand même, c'est une occasion, c'est une opportunité donnée au Burundi pour changer la situation. Comme ça, il ne pourra pas être à la tête d'une commission en charge des droits de l'homme et continuer à être accusé des violations graves de l'impunité et de la corruption. D'une part, c'est une opportunité. D'autre part, je dirais que c'est aussi un défi à relever. Si vraiment ils sont intelligents, si vraiment ils sont conscients, ils ont une opportunité à ne pas rater.
Inzamba.
Suite de cette rétrospective de la semaine, le président de l'Assemblée nationale, Gérard Ndayirabe, a accusé jeudi les députés de saboter l'action du gouvernement en complicité avec leurs amis en cachant le carburant dans leur maison pour le vendre au Rwanda. Daniel Gérard Ndayirabe a ainsi proposé la réinstauration de la peine de mort pour ceux qui se rendront coupables de ce trafic du carburant. Suivez.
Il y a des gens qui cachent du carburant dans leur maison. Des gens qui sont régulièrement appréhendés avec 5000 litres de carburant, 3000 litres dans des maisons. Pourquoi le font-ils vraiment? Et vous dites qu'il n'y a pas de carburant, alors que parmi vous, il y a des gens ou certains de vos amis et proches qui le cachent dans leur maison et vous laissez bouche cousue. Ce sont ces gens-là qui reviennent pour le vendre plus cher et qui, en même temps, le cache pour inciter les gens à la révolte. Le carburant est régulièrement importé. Même maintenant, il y a des camions qui sont en route. Mais où va ce carburant? Qu'on demande au gouvernement de réinstaurer la peine de mort. La peine de mort pour celui qui sera appréhendé en train de trafiquer du carburant. Ce trafic fait souffrir énormément cette population dont vous êtes en train de parler, qu'on le tue. Probablement que cela pourra être atténué, cette situation. Ce n'est pas du tout le carburant qui pose problème, c'est plutôt le problème des gens. Fatigage du carburant dans des fûts alors qu'il y a des compatriotes qui en ont besoin. En plus, ce carburant a été acheté avec les devises provenant des caisses de l'État pour l'intérêt de la population. Et toi, tu te permets de le stocker en cachette pour aller le vendre au Rwanda ou dans un autre endroit inconnu.
Les propos du président de l'Assemblée nationale, Daniel Gérard Ndayirabe, sont ridicules pour un représentant du peuple. C'est l'avis de la coalition de l'opposition politique Sefor Arusha. Selon cette organisation politique, les autorités burundaises ont perdu la tête et ne contrôlent plus ce qu'elles disent. On écoute à ce propos Jean Bosco Guigemera, vice-président de la coalition Sefor Arusha.
Quant au président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de pauvreté. Vous voulez que chaque Burundais possède une voiture, voyage en avion. Tels sont ses propos. Il fustige quand même les spéculateurs dans la commercialisation du carburant en cachette. C'est une situation déplorable, certes, et la police devrait faire son travail pour mettre fin à ce genre de situation, mais toujours conformément à la loi. Le président de l'Assemblée nationale propose une peine de mort pour quiconque se rend coupable de la commercialisation en cachette du carburant. Quel est le langage de la part d'un dirigeant de haut rang comme lui? C'est triste, ridicule, gravissime même. Si le coupable est tué, va-t-on avoir alors les devises nécessaires pour l'importation du carburant? Puisque le problème est essentiellement là, à quand la fin de ce réflexe de recourir à la violence? En conclusion, Sefor Arusha propose les tenants du pouvoir CNDD-FDD devraient se déclarer incapables et par conséquent avoir le courage de démissionner. L'Assemblée nationale devrait se rappeler que sa mission n'est pas de se soumettre à l'exécutif, mais plutôt de le contrôler, de le rappeler à l'ordre, le cas échéant, le démettre. Quant au peuple burundais dans sa diversité, devrait transcender les appartenances politiques, régionales, ethniques, et agir comme un seul homme pour dire « trop c'est trop ». La pauvreté affecte tout le monde. Personne n'est épargné. Tous les moyens pacifiques sont bons maintenant pour mettre fin à ce pouvoir qui conduit le pays à la dérive.
La coalition CFOR Arusha déplore aussi le fait que les responsables du pays, à commencer par le chef de l'État Evariste Ndayishimiye, continuent de narguer la population qui ne pense qu'à leurs intérêts propres. Encore une fois, Jean Bosco Guigemela.
Le chef de l'État nargue son supposé peuple que le Burundi n'avait jamais connu des moments aussi glorieux que ceux de son mandat. On ne sait pas s'il ne s'adressait pas aux membres qui se revendiquent de l'héritage de Nkurunziza pour leur signifier que, malgré le chaos hérité de Nkurunziza, il y tient quand même le coup. Le même chef de l'État ne cesse de déclarer qu'il ne saurait connaître la durée de la vie, étant donné que ses stocks sont débordants, oubliant que c'est à la sueur de son peuple qu'il doit tous les moyens dotés à son intendance. Et le secrétaire général du CNDD-FDD d'ajouter du piment dans la sauce en envoyant la population à marcher à pied, elle n'en souffrira pas, telle est sa solution à la pénurie du carburant. Les députés, quant à eux, le souci est qu'ils ne parviennent pas à s'approvisionner en carburant, alors que pour les ministres, c'est le contraire. Cette colère a été exprimée il y a quelques jours par un député. Nous venons de l'entendre de la part d'un autre il y a de cela deux jours. Tous ces représentants du peuple, s'ils sont servis, il n'y a plus de problème. Le reste, c'est leur affaire.
Fin de la rétrospective de l'actualité de cette semaine qui s'écoule. Merci encore une fois pour votre fidélité. Agréable fin de week-end à tous. Au revoir.
Zamba. Zambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.